Merci. Donc effectivement, j'avais fait une biographie en 2010 sur Pascal Grousset, où un certain nombre d'éléments étaient donnés de la relation entre Pierre-Jules Hetzel et Pascal Grousset sur différents plans. Et donc il m'avait semblé intéressant de faire un nouvel état des lieux de ces modes de collaboration, d'autant plus que j'ai évidemment trouvé d'autres choses. Et puis il y a des éléments que j'avais laissés de côté à ce moment-là, parce que d'abord il n'y avait pas la place de les mettre. L'ouvrage était déjà un peu conséquent. L'éditeur Benoît Peters m'avait déjà demandé de réduire, donc j'avais laissé des choses de côté. Donc c'est ce que je vais vous présenter ce matin. Je vais commencer par cette première lettre qui a été envoyée par Pascal Grousset à Pierre-Jules Hetzel. Vous la connaissez pour une partie d'entre vous certainement. Donc, qui est du 26 octobre 1875. Donc, c'est la première lettre d'une correspondance qui sera relativement abondante, donc entre Pierre-Jules Hetzel et lui. Donc, Grousset recevra, quant à lui, pour reprendre ses propres termes, plus de 50 lettres charmantes dans leur douce et fine autorité de Pierre-Jules Hetzel. Bon, les échanges se poursuivront jusqu'en 86 et puis ensuite avec Louis-Jules Hetzel. Alors revenons à cette première lettre qui est quand même importante, puisque d'abord c'est la seule à porter le nom de Pascal Grousset, à être signée de Pascal Grousset. Toutes les autres seront signées Philippe Daril, y compris d'ailleurs quand il n'y aura plus besoin de le faire après l'amnistie des communards. Donc à ce moment-là, Grousset est évadé de Nouvelle-Calédonie, il est à Londres depuis juin 1974, et donc il évoque auprès de Hetzel les circonstances de sa première rencontre avec lui. Donc, je vous lis ce passage, si vous le connaissez peut-être. Je vais passer assez rapidement sur un certain nombre d'éléments que vous êtes susceptibles de connaître pour vraiment aller sur les éléments nouveaux et donc faire tout ça dans le temps imparti. Vous rappelez-vous qu'il y a 5 ou 6 ans, j'ai eu l'honneur de vous être présenté par Hébrard à un moment où je songeais déjà à écrire des romans scientifiques. Sans doute trouverez-vous que j'ai pris le chemin de l'école pour en revenir là. Mais depuis que j'habite l'Angleterre, j'ai eu l'occasion d'en voir de près le système scolaire et de le comparer au nôtre. Il m'a paru intéressant de résumer sous la forme vive et facile d'un petit roman les résultats de cette comparaison. Et j'ai l'honneur de vous en adresser le manuscrit par la poste. Si vous jugiez utile de le publier dans votre magasin ou tout autre de vos collections, j'en serais très flatté. De terribles souvenirs, encore trop récents, me font penser que ce ne pourrait être que sous un pseudonyme littéraire. Le titre serait donc La métamorphose de Laurent Griveaux, scène de la vie de collège en Angleterre, par Philippe Daril. Donc ce manuscrit, ce premier manuscrit qu'il propose, il ne paraîtra que beaucoup plus tard, en 1881, donc sous le titre Des scènes de la vie de collège en Angleterre, qui sera le premier titre d'une série de 14 volumes, qui connaîtra un succès honorable, voire un bon succès, en particulier pour le premier titre. Avant sa publication, l'auteur a proposé à l'éditeur que son manuscrit fasse l'objet d'une cession afin qu'il soit réécrit par un autre écrivain, donc évidemment comme pour l'héritage de Langevol et l'Étoile du Sud. Bon, à la différence de ces deux textes qui ont été réécrits par Verne, la paternité lui est laissée. Alors deux hypothèses à cet égard. Soit le texte a été jugé par Hetzel mieux écrit, soit il en a pressenti un intérêt éditorial, surtout que déjà très vite, Daril évoque l'intention de faire une série. Donc évidemment, c'est toujours intéressant d'un point de vue éditorial de raisonner en termes de série. Donc une autre lettre, il dit, il y aurait peut-être là le commencement d'une série complète pour l'avenir de vie de collège en Espagne, en Hollande, en Russie, etc., chacune encadrée par une fable particulière. Je tournerai très volontiers de ce côté mes études dans les voyages que je fais aussi souvent que je le puis, et je rumine déjà à mes moments perdus le plan d'une vie de collège en France, car il est assez singulier que ce côté de l'existence nationale ait encore été peu étudié et décrit. Alors effectivement, les vies de collège constituent une série très bien identifiée dans la production d'Hetzel, donc au sein de la bibliothèque d'éducation et de récréation, et elle représente l'un des trois volets de l'activité d'auteur, donc d'écrivain de Pascal Grousset pour Hetzel. Le deuxième volet concerne les romans d'aventure. Donc c'est une autre série de la bibliothèque d'éducation et de récréation, presque entièrement dédiée à André Laurie, à l'exception de L'île au trésor, mais dont la traduction, ou plutôt l'adaptation, a été assurée par André Laurie lui-même. et à l'exception aussi de la découverte des mines du roi Salomon, de Rider Haggard, dont on a hésité à attribuer la traduction à Lori. Alors pour différentes raisons. D'abord par le fait même que ça fait partie de cette série, alors pourquoi cette exception? Et puis aussi parce que dans la présentation qui est faite, donc dans les placards publicitaires, notamment sur les affiches, donc ça c'est quelque chose d'ailleurs qui a été bien décrit par Élodie Rimbaud dans un article qu'elle consacre à l'île au trésor dans la revue aux 30, eh bien on voit que finalement sous le nom d'André Lory, eh bien il y a différentes choses, il y a des romans et puis il y a deux adaptations, l'île au trésor et puis la découverte des mines du roi Salomon. En ce qui me concerne, je pense qu'il y a eu un début de traduction de ce texte qui a été assuré par André Lory. La genèse des récits d'aventure d'André Lory est évidemment plus complexe que celle des vies de collège. Quand on raisonne justement sur toute cette question de la génétique, c'est tout à fait intéressant, hein. On voit d'abord que il y a des origines qui se trouvent du côté de Jules Verne, comme vous savez. Et puis il y a des choses qui sont plus complexes et qui concernent notamment le lien avec les adaptations. Et donc finalement, on voit que le premier roman d'aventure de Lory, L'héritier de Robinson, c'est en fait au départ une adaptation d'un texte anglais. Donc à l'origine, c'était L'héritière de l'astrologue, c'est une adaptation d'un ouvrage anglais qui s'appelle Alice Lorraine de Richard Doddridge Blackmore. Donc premier roman d'aventure de Lory, mais qui est la conséquence d'adaptations et puis aussi de très nombreuses discussions entre Daryl et Hetzel, puisque tous les deux discutent évidemment beaucoup par correspondance d'un certain nombre d'évolutions apportées au texte. Donc ce premier roman d'aventure résulte de réduction et de transformation, donc nourri par les discussions. Et puis on voit que cette question de la réécriture, elle opère aussi ailleurs. Donc elle opère dans les adaptations. Daryl lui-même a probablement réécrit certains de ses textes. C'est-à-dire que quand il écrit Les chercheurs d'or de l'Afrique australe, probablement fait-il un écho à l'étoile du Sud. Il a perdu la paternité de l'étoile du Sud, donc probablement veut-il y revenir. Donc j'ai déjà évoqué hein, par ailleurs que les récits d'aventure d'André Lory ont des contours assez flous, avec des origines qui concernent plusieurs auteurs, mais aussi une certaine forme d'hétérogénéité. Alors, autre volet de l'activité d'auteur de Pascal Rousset, c'est un mélange qui est encore plus disparate, qui est composé de romans, de reportages, de correspondances, la plupart adressées au journal Le Temps, qui sont parues sous le titre générique La vie partout. Et donc ça, c'est au sein de la collection Hetzel in 18. Et au travers de ce projet, Grousset imagine à la fin de 1882 une série ambitieuse. Je vois le tout comme une véritable physiologie comparée des divers peuples, développée en des actions dramatiques, distinctes dans le cadre normal et justifiées, mises en théorie par mes volumes de critiques. Mes lectures et mes voyages vont donc se tourner vers ce but défini. Alors, plusieurs des ouvrages qui sont publiés dans cette série entre 84 et 88 connaissent un certain, voire un franc succès. Et ça dans des domaines très variés. Donc il y a la vie publique en Angleterre, qui permet de découvrir le fonctionnement des institutions démocratiques en Angleterre, des institutions anglaises. Il y a l'ouvrage Les Anglais en Irlande, qui là, en fait, a une notoriété antérieure à sa publication en France, puisque des articles sont parus aussi dans des journaux anglais. Et puis l'ouvrage a été loué par Gladstone. Il y a aussi les Renaissances physiques qui fait partie de cette série, donc comme vous savez, qui sera en fait le document fondateur de la Ligue nationale de l'éducation physique. Un roman beaucoup moins connu, La petite Lambton, qui est inspiré par la vie et puis la fin tragique de l'écuyère Émilie Roux, donc qui est connue sous le nom de scène d'Émilie Loisset, qui vaut à Daryl la reconnaissance des milieux du cirque. Et d'ailleurs, donc Hugues Leroux, dans sa somme qui s'appelle Les Jeux du cirque et la vie foraine, donc qui est parue en 89, rend hommage à Philippe Daryl pour ce qu'il a évoqué au travers de ce métier d'écuyère. Il y a aussi l'étude historique qui précède la publication des lettres de Gordon à sa sœur, Donc là, donc c'est encore un autre champ d'activité. Donc ce sont des données géopolitiques, si vous voulez, sur l'Égypte, donc que Grousset d'ailleurs reprend dans Les Exilés de la Terre. Donc on voit bien que dans ces romans, enfin que dans ces textes, il y a un mélange de textes journalistiques, de romans, et puis de textes à caractère un peu politique. Grousset, il a toujours cette ambition de constituer des séries. Et donc, avec La Vie partout, c'est une série évidemment très ambitieuse, qui a un fort caractère encyclopédique. C'est pas le seul exemple, hein. Par exemple, à un moment donné, il souhaite traiter de la locomotion dans tous ses domaines. Donc, il imagine de traiter de la locomotion moderne dans ses divers aspects, atmosphérique, terrestre, souterraine, sous-marine. Donc, ce sera esquissé au travers du Géant de l'Azur, par exemple, et puis dans Le Maître de l'Abîme, mais ça n'ira pas à son terme. À un autre moment aussi, il envisage de faire quelque chose qui serait le parcours d'un beau type de Français, comme il dit, dans différentes situations. Parallèlement à son activité de romancier et de journaliste, Daryl effectue des traductions et des adaptations de textes anglais ou américains. On connaît les travaux qui portent la signature André Laurie, avec pour commencer évidemment Le Chef au bracelet d'or, qui est publié dans le magazine d'éducation et de récréation à partir du 1er décembre 80. Et donc, avec ce texte, apparaît pour la première fois la signature André Laurie, qui a été choisie par Philippe Daryl dans une liste de noms qu'il envoie à Hetzel. Donc, André Laurie est le pseudonyme de Philippe Daryl, qui est le pseudonyme de Pascal Grousset. Hein. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, ce roman d'après, Men Red, est une adaptation de Howard Wadsworth. C'est bien une adaptation. L'auteur le dit lui-même, hein, Daryl le dit lui-même. Il dit que c'est plutôt un roman basé sur la fable de Men Red qu'une traduction proprement dite. Donc son statut n'est pas si éloigné que cela de celui de l'héritier de Robinson. Pour La Terre de Feu, donc dernière œuvre de Men Red, on est sur quelque chose qui semble-t-il plus fidèle. Une mention est portée sur le livre d'ailleurs, seule traduction autorisée par l'auteur et ses ayants droit. Et puis bien sûr, la traduction la plus connue est celle de L'île au trésor. Donc, il paraît d'abord dans le journal Le Temps, donc chez son cousin issu de Germain Hébrard, et qui est publié par Hetzel en 1885. Alors, en dehors de ce qu'il a signé, Laurie a probablement fait bien d'autres traductions pour Hetzel. Il révise par exemple la traduction des Jeunes aventuriers de la Floride, hein, donc de Brunet, et donc ça s'est publié par Hetzel, mais Hetzel fils, en 90. Alors, comme vous savez, ce n'est pas Grousset qui a suggéré à Hetzel de publier L'île au trésor, mais de Montscherer, hein, donc critique littéraire au journal Le Temps. Et Hetzel a d'abord pensé en confier la traduction à d'autres auteurs, et puis finalement, il a proposé à Daryl. Il avait pensé notamment à Thérèse Benson, donc Marie-Thérèse Solme-Blanc, qui est une autre traductrice de la maison Hetzel. Alors, qu'en est-il de cette traduction? Donc Marcel Schwab était très réservé sur la qualité de cette traduction. Plus récemment, il y a les travaux de Élodie Rimbaud, hein, dont j'ai parlé, donc où elle est allée plus en détail sur l'examen de cette traduction. Et en fait, on voit bien que Grousset, en faisant ce travail, il fait sien le texte de Stevenson. C'est-à-dire qu'il l'adapte aussi à un certain nombre de ses conceptions à caractère éducatif. Donc c'est évidemment tout à fait intéressant. Alors, dans le cadre des éditions Hetzel, on voit bien que ça a un sens tout à fait intéressant, puisque les éditions Hetzel ont déjà une pratique d'introduction en France d'œuvres étrangères. Donc, introduction pour Hetzel signifie adaptation, mais adaptation à l'idée que Hetzel se fait de ce qui convient à la jeunesse, notamment dans un dessin d'éducation morale, évidemment. D'où de nombreuses discussions à ce sujet entre Daryl et Hetzel, sur ce qui est bien, pas bien, ce qui nécessite d'être modifié. Alors, pour que des œuvres venues d'étrangers conviennent à la jeunesse française, les adaptations doivent porter en fait sur trois approches. Où est-ce qu'il faut adapter quelque chose? D'abord, évidemment, il y a la question du style. Le style qui doit être fluide, comme on dit. Donc, il doit être débarrassé de ses lourdeurs. C'est un terme qu'on trouve très souvent sous la plume de Hetzel, débarrasser le style de vos lourdeurs. Il faut aussi que ça corresponde, que les mœurs correspondent à l'éducation française. Ou en tout cas, n'aille pas heurter les sensibilités de la jeunesse française. Et puis, il faut aussi des données scientifiques qui soient correctes. D'ailleurs, quand Hetzel adapte avec Müller le nouveau Robinson suisse d'après Wyss, il s'agit évidemment d'une traduction, c'est les termes, une nouvelle revue corrigée et mise au courant de la science. Alors, en ce qui concerne l'activité d'agent littéraire, hein, dont il a été question tout à l'heure, c'est intéressant de faire ce parallèle entre cette activité d'agent littéraire qu'a exercé Pierre Jules Hetzel et celle qu'exerce Pascal Grousset. Puisque donc, en plus de sa collaboration en tant qu'écrivain, journaliste, traducteur, Philippe Daril exerce une fonction donc, qu'on pourrait qualifier d'agent littéraire. Il est à l'affût d'œuvres étrangères susceptibles d'alimenter le catalogue Hetzel, des œuvres d'ailleurs qu'il propose de traduire et d'adapter, parce que ce qu'il identifiera et qui intéressera Hetzel, évidemment, lui amènera du travail. Et puis s'ajoutent à ça divers travaux de rédaction, de notices bibliographiques, etc., de légendes, d'albums. Bon. Alors, on va examiner un plus avant ces versants qui sont moins connus de l'activité de Pascal Grousset chez Hetzel. Mais avant, et ça me semble important, et je crois que c'est les éléments vraiment nouveaux dont je peux faire état aujourd'hui, il convient de s'interroger sur cette sorte de suractivité d'apparence boulimique, et en tout cas protéiforme, qui caractérise Daril. Alors, à la suite, donc, retour sur quelques éléments qui concernent la vie de Pascal Grousset. À la suite de son arrestation en juin 71, donc peu après la semaine sanglante, il est jugé, condamné à la déportation en enceinte fortifiée. Il passe un an au Fort Boyard, il est envoyé en Nouvelle-Calédonie. Et donc, à ce moment-là, la famille Grousset se retrouve sans ressources. Le père de Pascal Grousset, d'ailleurs, a été arrêté également, puis finalement relâché. Mais donc la famille Grousset est sans ressources, la propriété familiale est vendue. Désormais, nous étions bien tous et toutes absolument dénués des biens de ce monde. Il ne nous restait plus que nos bras et nos cerveaux pour gagner notre pain, à la sueur de nos fronts, comme Dieu l'a voulu, racontera plus tard la jeune sœur de Pascal Grousset, Émilie. Donc là, c'est un texte qu'elle a écrit plus tard, beaucoup plus tardivement, donc en 1934. Ça a été écrit à Bastia, d'ailleurs, ce texte. Mais donc, on voit bien la situation. La mère de Pascal Grousset meurt en 72, dit-on de chagrin, hein, ça c'est ce qu'on dit dans la famille, dit-on de chagrin, compte tenu de la situation qui était faite à son fils. Le père de Pascal Grousset décède en 1875, ce qui fait que lorsque l'évadé de Nouvelle-Calédonie arrive à Londres le 23 juin 1874, il retrouve ses sœurs qui sont parties pour l'Angleterre avant 1873, et puis, peu à peu, s'installe à Londres une situation où, ben, finalement, ils sont vraiment, ces enfants Grousset sont livrés à eux-mêmes et doivent survivre, en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'image du père de Pascal Grousset et de ses sœurs, donc Alexandre, tout le monde est très cultivé dans la famille. Il y a Anna, par exemple, hein, qui est née en 1846, donc je rappelle que Grousset est née en 1844. Elle fut rédactrice au Temps, traductrice de l'italien, elle excelle en musique, en dessin, en peinture. Il y a Marguerite, donc Marguerite qui elle est née en 54, elle est également très douée en dessin et peinture, fait aussi une carrière au journal Le Temps. Elle devient écrivain sous le pseudonyme de Joël Ritt. Donc bon, il y a de nombreux ouvrages, hein. Il y a par exemple La fin d'un roi qui est consacrée aux dernières années de Jacques II. Il y a Les filles d'Albion qui a été publié dans Le Temps en 1924. Elle est traductrice de textes allemands. Il y a le journal d'une fille d'honneur, donc qui est paru en 1909, qui est d'ailleurs un roman destiné aux jeunes filles, exactement dans l'esprit de ce que Daril avait proposé à Hetzel une vingtaine d'années auparavant. Et puis la petite sœur, Émilie, donc née en 61, elle obtient son agrégation d'allemand en 1893. Elle est d'ailleurs probablement la première femme à obtenir l'agrégation d'allemand. L'agrégation en général, je ne sais pas, mais je vais quand même creuser cette question. En tout cas, l'agrégation d'allemand, oui. Et elle sera co-auteur avec son fils Georges Romieux de plusieurs biographies, donc notamment La vie des sœurs Brontë. Donc à Londres, ou dans d'autres lieux en Angleterre, les sœurs donnent des cours, contribuent sans doute aussi à l'œuvre de leurs frères, au moins sur le plan documentaire. Et donc là, ce sont des choses qu'on raconte dans la famille. Donc ce sont des choses qu'on raconte dans les familles Grousset et Hébrard. Alors c'est intéressant quand on collecte de l'information en tant que biographe, évidemment de se servir de documents, mais aussi d'écouter ce qui se dit dans la famille. C'est aussi une approche dont on peut tenir compte. Alors, il faut évidemment être toujours très prudent sur ce type d'approche, mais en tout cas c'est à prendre en compte. Donc, la situation de cette famille qui est d'abord exilée, qui fait ensuite le choix de rester en Angleterre. Donc Anna et Marguerite rentreront que tardivement, semble-t-il, autour de 1900 pour s'établir à Paris. Et puis Grousset continue de faire des voyages, des allers-retours à Londres après l'amnistie. Tout ça émeut sans aucun doute Pierre-Jules Hetzel. Et Pierre-Jules Hetzel dit ce que je puis vous dire. C'est que c'est ce que je pense après vous, puisqu'un autre a bien fait pour ce ménage touchant et intéressant dont vous m'avez parlé d'un frère et de ses quatre sœurs. Alors, cette situation d'un frère et de ses quatre sœurs explique évidemment la quête constante de travaux directs, de travaux nombreux, divers, en différents domaines par Philippe Daril. J'avais fait l'hypothèse dans la biographie de ce que j'avais appelé un collectif André Lory. Donc, qui expliquerait non seulement la diversité et l'ampleur des propositions de travaux et des contributions effectives, donc qui sont signées André Lory et Philippe Daril, mais aussi probablement, ça pourrait expliquer certaines disparités de style dans une œuvre finalement de assez grande ampleur. Alors, Pascal Grousset, quand il est à Londres en exil, il se considère également responsable de son jeune frère, Louis. Il fait en sorte, par exemple, de lui envoyer des cahiers de dessin. Depuis Paris pour encourager son talent, il lui envoie régulièrement de l'argent, en tout cas dès qu'il le peut. Donc il lui envoie de l'argent sous le nom de Philippe Daril, comme les courriers adressés à Hetzel. Et en particulier quand son frère est à l'école de cavalerie de Saumur. Et en fait, Pascal Grousset, il passe en sorte, après le décès des parents, du statut de frère à celui de père. Les termes qu'il utilise à cet égard sont extrêmement révélateurs. Donc, quand il écrit à son jeune frère, il dit mon cher enfant, mon cher petit. Quand il écrit à ses sœurs, il s'adresse à ses anges chéris. Il y a une situation qui est encore plus critique, c'est en 1867 où Grousset se retrouve pratiquement sans ressources à Londres. Et il demande, donc là, il fait appel du côté corse, à sa famille corse, hein, puisque sa mère est corse. Il demande au chef respecté de toute sa parenté corse d'intervenir auprès de son tuteur Luigi, car celui-ci ne lui envoie pas une somme qui lui est due, de peur de s'exposer à une réclamation de l'État qui a légiféré après la spectaculaire évasion de Grousset et de ses compagnons de Nouvelle-Calédonie. Et en fait, l'État a légiféré pour éviter que des prisonniers reçoivent de l'argent qui leur permettrait de s'évader. Bon, donc voilà le contexte. Pour ce qui est de la famille corse, mes prochaines investigations porteront d'ailleurs là-dessus, puisqu'il y a un film qui va sortir sur Pascal Grousset, un film documentaire Pascal Grousset Benedetti, qui a été fait par un Corse qui s'appelle Maestrati. C'est l'occasion de dire un petit peu plus de choses sur cette famille. Enfin bref, à ce moment-là, Grousset, quand il fait appel à un médiateur avec son tuteur Luigi, il décrit explicitement sa situation et sa responsabilité. Il dit « Je suis chef de famille, j'ai de lourdes charges. » Un frère à l'armée, une sœur en pension, donc c'est la jeune Émilie. Donc c'est la précarité matérielle de Grousset et de ses frères et sœurs qui le conduit probablement à céder ses premiers manuscrits et à multiplier les propositions de contribution à Hetzel. Alors, sur ce plan-là, donc au-delà de cette espèce de tradition orale qu'il y a dans la famille, j'ai pu identifier dans quelques lettres que Grousset envoie à ses sœurs des choses qui iraient corroborer cette hypothèse. Et donc notamment, il y a un courrier d'Irlande adressé par Grousset à ses sœurs restées en Angleterre qui pourrait aller dans ce sens. Il dit « J'ai bien reçu les livraisons de reclus et vos travaux variés. Merci mille fois, mes anges. Vous me facilitez singulièrement les choses. Inutile de m'expédier les chapitres du roman japonais. Je les prendrai en rentrant du 10 au 15 juillet. » Donc le roman japonais, c'est bien sûr autour d'un lycée japonais. Dans un autre courrier à ses sœurs, il leur soumet plusieurs sujets de récit. Le premier concerne les souvenirs d'une vieille fille en 1830 sous forme de mémoire. Grousset considère que d'ailleurs la société anglaise d'aujourd'hui, qui reproduit assez exactement les mœurs françaises de l'époque de la Restauration, peut leur servir de canevas. Il dit que pour ce qui concerne les renseignements techniques, les modes, etc., il se chargera de leur fournir quand ce sera nécessaire, ce dont elles auront besoin. Et puis il propose d'autres sujets qui peuvent devenir évidemment des récits. Donc le deuxième sujet s'intitule Les petites femmes. Voilà, il donne le canevas, deux petites sœurs, l'une de 12 ou 13 ans, l'autre de 7 à 8, de conditions tout à fait modestes. Cette fois, se trouvent tout à coup orphelines et seules au monde, sans parents, sans amis, etc. Elles ont à lutter contre les difficultés de la vie et s'en tirent glorieusement. Comment et pourquoi? Ce n'est pas notre affaire. Ce qu'il y a de certain, c'est que les enfants se conduisant en grande personne sont toujours un sujet intéressant. Voyez Dickens. Donc cette suggestion n'est évidemment pas sans évoquer le registre des trois nouvelles très dickéniennes d'ailleurs, qui sont signées Philippe Darry, donc Histoire des deux enfants de Londres, Aventures nautiques, Les bavardages de Fanny, qui paraissent chez Armand Colin. Troisième sujet, un volume de pièces pour enfants et pensions de filles. Ceci peut se faire petit à petit, au moment perdu, quand une idée se présente. Quatrième sujet, un volume de contes de fées. C'est toujours bien accueilli, dit-il. Cinquième sujet, un volume de voyage, n'importe où, toute une famille ou même deux familles ensemble, voire plus tard, évidemment, la trilogie des chercheurs d'or de l'Afrique australe. Et puis Pascal Grousset fait pour terminer une recommandation vraiment éclairante sur la façon dont peuvent être assurées les productions littéraires de la famille Grousset. Il dit: ne craignez jamais de faire trop de copies. Ce qui effraie les éditeurs, ce n'est pas plusieurs volumes, c'est l'isolement d'un volume. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est soigner sérieusement ce qu'on fait. Donc certainement, nous tenons ici une clé de la conception sous la forme de série de l'œuvre de Grousset-Laurie Daril. On notera d'ailleurs qu'au fil de sa collaboration avec ses sœurs, il n'hésite pas à leur apporter ses propres connaissances qui étaient importantes, que ce soit en matière de balistique, de gravitation, d'astronomie, de médecine, d'instruction civique, allant par exemple jusqu'à leur faire un véritable cours d'économie politique à partir de la notion de ballottage, en leur décrivant la situation en Égypte, etc. Donc c'est une collaboration qui est nourrie d'apports réciproques. Alors maintenant, je voudrais préciser quand même quels sont les projets éditoriaux nouveaux que Philippe Darry propose à Pierre-Jules Hetzel. Le premier, c'est une collection qui est dédiée aux jeunes filles. Le second, c'est pour mettre en place une édition de très large, enfin destinée à un très large public avec des ouvrages bon marché. Alors quand il propose, ça c'est en 1880 à Hetzel, une collection pour les jeunes filles, il évoque d'ailleurs ouvertement la possibilité d'associer l'une de ses sœurs au projet. Donc c'est probablement Anna ou Marguerite, puisque ce sont elles deux qui semblent travailler le plus étroitement avec lui. D'ailleurs, à ce moment-là, dans une autre lettre qu'il adresse de Londres à ses sœurs, il dit: « Je vois que les traductions sont plus difficiles à organiser que je n'avais pensé. Ne vous en inquiétez donc plus, mes anges, et travaillez à des adaptations ou compositions qui puissent rentrer toutes dans une série intitulée Bibliothèque des jeunes filles. Je vous promets que nous finirons par en tirer bon parti. Si vous pouviez avoir deux ou trois volumes prêts dans quelque temps, cela vaudrait la peine d'envoyer Tancède, donc c'est, semble-t-il, le surnom d'une des sœurs, à Paris pour en activer le placement. L'autre grande idée éditoriale de Laurie qu'il présente à Hetzel, ce sont les classiques de la récréation. Donc ça a pour origine, ça j'en avais parlé dans la biographie, l'origine c'est une note qu'il adresse à Hetzel qui décrit les choix commerciaux effectués par les librairies anglaises. Donc là, il regarde comment ça fonctionne le marché en Angleterre. Et donc il propose de donner par exemple un Molière complet illustré en trois fascicules, un Voltaire complet en 30 fascicules, etc. Il dit: cette entreprise devrait être une affaire à part, parallèle à celle de la maison ou des maisons associées qui la tenteraient. Il faudrait une imprimerie spéciale, un papier spécial, un mode de publicité particulier, par affiche illustrée, comme en Angleterre et en Amérique, pour atteindre les couches profondes de la population. Il faudrait arriver, et ce ne serait pas fort difficile, à donner à ces publications un cachet à la fois artistique et démocratique, qui manque un peu aux productions similaires de l'Angleterre et des États-Unis. Donc Hetzel et Daryl discutent de ce projet par correspondance au cours du premier trimestre 83. Daryl soulève la question des droits d'adaptation, parce que ce qu'il préoccupe, c'est évidemment de gagner de l'argent. Il propose du coup un prix de vente par volume, il construit ce qu'on dirait aujourd'hui un modèle économique. Et puis il voit quelle rétribution proportionnelle à leur tirage il pourra en tirer. Lui, c'était un fin négociateur, hein, Daryl. Le projet ne parvient pas à aboutir, et du coup Daryl menace de porter son idée chez un autre éditeur, hein, donc son idée des classiques de la récréation, ce qui provoque une très vive réaction de Pierre-Jules Hetzel, et qui d'ailleurs relativise, et ça c'est important, le caractère novateur de la proposition de Daryl. Il dit: donc la question pour nous n'est pas, donc ça c'est Hetzel qui parle, Il dit la question pour nous n'est pas de renoncer à une idée qui a été la base de notre bibliothèque, donc on voit que l'idée n'est pas nouvelle pour lui, et de nos collections à l'usage de la jeunesse, c'est-à-dire à publier non seulement des livres nouveaux, mais encore tous les anciens classiques de la récréation, véritablement dignes de ce nom. C'est par là que nous avons débuté dans le magasin d'éducation, pour ne parler que de celui-là. Nous avons donné le Robinson Suisse, revu par moi. Nous sommes en droit moral fondé à donner à nos abonnés d'anciens livres en même temps que des nouveaux, à les publier en volume ou même dans les colonnes du magasin. Plusieurs de nos volumes témoignent que nous avons suivi ce double but et nous avons en préparation avec leurs illustrations, les unes anciennes, les autres nouvelles, plusieurs ouvrages répondant à ce titre, les classiques de la récréation. Ce titre, nous ne serions donc en aucun cas décidés à l'abandonner et ce ne serait pas parce que nous ne tomberions pas d'accord avec vous sur les formes à donner à notre vieille idée toujours poursuivie, que nous renoncerions à la poursuivre par nous-mêmes. Donc il souligne après, donc la lettre continue, il souligne qu'il a vraiment l'envie de faire cette proposition. En même temps, alors dans une autre partie de cette très grande lettre, Hetzel s'interroge aussi sur la capacité que Daryl a à produire les quantités qu'il annonce. Il dit, il ne faut pas faire plus de pain que les... Alors il a cette préoccupation, d'abord capacité de Hetzel à produire, et puis aussi capacité de ses lecteurs à absorber tout ça. Et sur ce second volet, il dit, il ne faut pas faire plus de pain que les convives sur lesquels on compte n'en pourront manger. Il dit donc, pour ce qui concerne Daryl, vous parlez de 200 volumes comme un autre pourrait parler de 5 ou 6. Vous croyez que parce qu'il s'agit de faire une collection composée de choses et gens ayant déjà crédit sur le public se jettera sur elle. Donc on voit bien qu'il y a ces deux versants. Voilà, donc ça c'est évidemment très, très intéressant. Bon, j'avais souligné le caractère très finalement essentiel de cette lettre pour la bonne compréhension des relations entre l'auteur et son éditeur. Donc on voit bien qu'il y a un arrière-plan de collaboration familiale. Est-ce que Pierre Jules Hetzel le savait, le percevait? Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais toujours sur cette question des classiques de la récréation, très vite, ça va sur un autre objet qui est l'adaptation de textes étrangers, ou plutôt l'introduction en France de textes étrangers, là probablement sans adaptation. Et donc il envoie en fait une liste de livres. En fait, son idée, c'est que Hetzel puisse disposer d'un véritable choix de livres de fond, il dit ça comme ça. Et il pense, Daryl, qu'un éditeur comme Hetzel se doit d'avoir ça en catalogue. Il dit, l'important, c'est que ces ouvrages viennent dans un temps donné prendre place dans vos listes où votre clientèle a en quelque sorte le droit de les trouver. Et donc, pour rendre l'idée plus concrète, il déroule une liste de 50 titres ou auteurs, il dit dans une liste évidemment élastique, qui peut s'étendre à 200 volumes au moins. Ah, c'était intéressant, donc vous aurez cette liste détaillée dans la publication qui sera faite, là. Mais arrêtons-nous un instant sur les titres d'ouvrages et les auteurs proposés par Daryl. Charles Dickens s'est très bien représenté, Dickens que Grousset admirait tant, Walter Scott aussi, il est cité 5 fois, Fenimore Cooper 4 fois, et puis bien d'autres auteurs. Alors, la présentation de Daryl de cette liste mélange des titres de livres, des noms d'auteurs, associe les deux, il utilise des abréviations. Donc on voit bien que c'est une liste qui a été écrite spontanément, rapidement. Donc dans sa présentation, il y aura besoin d'y adjoindre quelques informations complémentaires pour qu'elles soient compréhensibles. Et évidemment, une telle liste a une valeur qui est comparable à la bibliothèque. Quand on fait l'inventaire de la bibliothèque d'un écrivain ou d'un éditeur, on voit que ça donne un certain nombre de clés. Donc cette liste, évidemment, donne des clés. Il est possible d'ailleurs que cette liste comprenne une partie de la centaine de livres que Grousset avait en Nouvelle-Calédonie, qui lui ont été envoyés par sa famille, qu'il a laissé sur place, évidemment, en s'évadant. Donc, avec cette grande liste, il y a matière à imaginer ce qui aurait pu entrer au catalogue Hetzel sous l'impulsion de Daryl, d'autant plus que l'on peut y constater une présence relativement faible. Donc, quand on regarde le catalogue Hetzel, on peut toujours dire, oui, la présence des œuvres étrangères, dont vous pourrez évidemment donner votre perception, M. Gorowicz, là-dessus, c'est est-ce qu'il y a une présence suffisamment importante des œuvres étrangères? En ce qui concerne Walter Scott et Fenimore Cooper aussi, qui sont bien représentés, comme j'ai dit, il est à noter que déjà avant, quelques années avant, Daryl avait déjà proposé d'adapter en collaboration avec un autre auteur 10 chefs-d'œuvre du premier et 5 du second. Dans le même ordre d'idée, autour de 81, il avait proposé aussi, donc Daryl avait proposé à Hetzel une collection pour la jeunesse composée d'adaptations de livres de la littérature anglaise, américaine, allemande, suédoise, russe, etc. Donc on voit que les idées foisonnent, que toutes ne sont pas acceptées, et c'est ce qui doit nous interroger évidemment. Alors peut-être on peut considérer que la collection de la petite bibliothèque blanche, qui a été lancée en 78, antérieurement évidemment à l'idée de Darin, répond partiellement à cet objectif de faire un effort de production d'ouvrages bon marché. Cette collection d'ailleurs est importante, elle comprend quelques 80 volumes qui sont parus jusqu'en 1914, dont d'ailleurs la reprise de volumes du Nouveau Magasin des Enfants, de textes du Magasin d'éducation et de récréation, et puis il y a plusieurs textes adaptés de l'anglais dans cette collection. En ce qui concerne les ouvrages classiques, Hetzel avait déjà eu ce projet en 1862. Il y avait même un prospectus qui avait été imprimé annonçant 100 volumes dans cette collection, mais ça n'avait pas vu le jour. Donc là, vous pourrez vous référer justement à un des travaux qui avait été fait dans le cadre du colloque Hetzel de 86, les travaux de Nicolas Petit, etc. Quand Hetzel rachète en 76 à l'imprimeur Lahure la Semaine des Enfants, donc la session comprend une petite collection des œuvres classiques françaises. Bon, qu'Hetzel met en catalogue, mais qui ne valorise pas véritablement. Il y a un autre phénomène aussi d'antériorité qu'on peut relever, c'est que dans ce mode de collaboration qui est développé par Daryl avec Hetzel, qui consiste à signaler des ouvrages d'auteurs étrangers pour enfants qui seront pertinents à publier, eh bien, il y avait eu un précédent avec Esquiros, évidemment. Donc Esquiros qui a été réfugié une première fois à Londres après les journées de 48, qui a été émigré une seconde fois en Grande-Bretagne après le coup d'État bonapartiste, et puis qui est resté en Angleterre par choix personnel, un peu comme Crousset et ses sœurs. Voilà, donc on a deux sortes de précédents. Et donc, compte tenu de ces différents précédents, les propositions de Daryl viennent finalement réactiver des choses qui ont déjà existé. Et quand Hetzel dit... Pour les classiques de la récréation, c'est une vieille idée toujours poursuivie. Du coup, les propositions qui semblent très innovantes à Daryl ne trouvent pas un terreau favorable chez Hetzel. Parce qu'il y a déjà une réflexion qui a eu lieu, parce que aussi il y a la prudence de l'éditeur hein, pour maintenir un équilibre économique de sa maison. Et puis aussi, probablement, lié à la différence d'âge. Hein. Ils ont 30 ans de différence. Donc peut-être que l'enthousiasme et l'énergie de ce chargé de famille, qui lui est proche de la quarantaine, ne peut pas susciter le même enthousiasme chez l'éditeur. Dernier point, donc la partie iconographique. Donc là encore, hein, ce sera détaillé dans le texte qui sera publié, mais l'activité de recherche d'illustration commence très tôt. Hein, donc Daryl recherche des illustrations pour l'éditeur, donc déjà d'ailleurs pour l'héritage de Langevol. Il y a des recherches qui sont faites pour Marussia, pour la musique en famille, Un drôle de voyage, etc., etc. Pour le chef au bracelet d'or de Manred, puisque l'édition anglaise n'est pas illustrée. Grousset parvient à approcher de grands illustrateurs en Angleterre, donc il approche Kate Greenaway en 81. Pour les illustrations de La Mère Gigogne, ça ne marche pas. Du coup, il propose Randolph Caldecott, qui a illustré toute une série d'albums pour le grand éditeur anglais Routledge. Et puis, il va même jusqu'à faire des recommandations sur le plan technique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une recherche d'illustrateur, c'est aussi voir comment ça peut être, où est-ce que ça peut être réalisé, ces illustrations, de façon pertinente. Et donc, par exemple, il recommande la chromolithographie qui a atteint un grand degré de perfection à Londres. Et donc, ce serait mieux de faire certains travaux à Londres. Voilà. Alors, donc, on voit bien que dans cette confrontation, on a une similitude de parcours entre les deux hommes qui dit beaucoup de choses. Alors, similitude de parcours, ce sont des hommes politiques tous les deux. Alors, certes, donc, tous les deux républicains. Certes, l'un beaucoup plus engagé que l'autre, ce qui d'ailleurs est une source de prudence hein, de Hetzel, qui est toujours inquiet que Grousset reprenne sa carrière politique, évidemment, hein, quand il développe une collection André Laurie, il a toujours peur de ça. Ils ont tous les deux été auteurs et puis adaptés des textes de l'anglais. Ils sont tous les deux créateurs de revue, et donc tous les deux agents littéraires. Une question qu'on peut se poser, alors en plus, compte tenu de la précédente intervention, est-ce que Pierre-Jules Hetzel, s'il avait mieux pris en compte les propositions de Daril, finalement, est-ce que sa maison d'édition aurait été différente? Alors, dire, bah oui, mais on peut toujours imaginer de refaire l'histoire. Mais c'est intéressant aussi de voir comment des choix qui sont faits à un moment donné peuvent déterminer la suite. On ne refera pas l'histoire, mais on est en droit de se poser la question. Je vous remercie.